porta il fresco ovunque lui va, dal monte il fiume è arrivato fin qua. È il fiume di Dio che ci fa danzare, è il fiume di Dio che ci fa cantare, è il fiume di Dio che ci fa esultare. Rido e canto perché il fiume è qui, rido, rido e canto perché il fiume è qui. È il fiume di Dio, la vita ci dà, chi toccherà la vita avrà. Se in riva al fiume tu rimarrai, di stare con Dio non ti stancherai. È il fiume di Dio che ci fa danzare, è il fiume di Dio che ci fa cantare, è il fiume di Dio che ci fa esultare. Rido e canto perché il fiume è qui, rido, rido e canto perché il fiume è qui. E su quel monte vogliamo andare alla presenza del Signore, al fiume che scorre abiteremo. E danzeremo dando il figlio di Dio. Il fiume è il fiume di Dio che ci fa danzare, è il fiume di Dio che ci fa cantare, sì, è il fiume di Dio che ci fa esultare. Rido e canto perché il fiume è qui. Il fiume di Dio è il fiume di Dio che ci fa danzare, è il fiume di Dio che ci fa esultare. È il fiume di Dio che ci fa esultare, sì, rido e canto perché il fiume, ancora il fiume, è il fiume di Dio che ci fa danzare, è il fiume di Dio che ci fa cantare, è il fiume di Dio che ci fa esultare, rido, rido e canto perché il fiume è qui, rido, rido e canto perché il fiume è qui, rido, rido e canto perché il fiume è qui.
C'est une très grande joie pour nous de vous accueillir pour cette première journée masculine nationale qui est le fruit d'une collaboration entre le Forum des hommes et le Menand Forum. Nous croyons que c'est Dieu qui nous invite ici à Berne. Il a en effet ouvert et fermé de nombreuses portes et fait évoluer notre projet afin de nous amener dans la capitale fédérale. C'est une joie aussi de recevoir Earl Peets, qui va aborder le thème essentiel des finances et de l'argent, dont la Bible parle si souvent, afin de nous aider à démasquer dans nos vies quotidiennes les principes du système du monde qui influencent notre gestion. C'est une joie parce que cet enseignement sera pour la première fois suivi par la prière sur la place fédérale et par divers séminaires à Bienne, Lausanne et Zurich ces prochains jours. C'est une joie enfin parce que cette journée masculine démontre le principe de la complémentarité dans la diversité. Ce concept se manifeste dans l'alliance que nous avons faite avec les frères de Suisse alémanique, d'une part, et par la collaboration que nous avons pu concrétiser avec de nombreuses personnes issues de divers mouvements d'autre part. Merci au Seigneur Merci aussi à ceux qui se sont impliqués avec tant de passion et d'énergie pour réaliser ces divers projets. Être fidèle dans les petites choses pour devenir fidèle dans les choses essentielles. Voilà le mot d'ordre de cette journée. Le premier élément que je désire mettre en avant, c'est que nous avons de la peine à distinguer les choses qui sont essentielles de celles qui sont secondaires. En parlant de choses essentielles, je pense à celles que Dieu nous demande de réaliser, et pour l'école, il nous donne le vouloir et la capacité de le faire. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte, et que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette vérité démontre une intention de Dieu qui a valeur d'absolu. Dieu construit et transforme notre être, non seulement par ce que nous pensons, mais par ce que nous entreprenons. Le deuxième élément que je veux souligner, c'est que sans un entraînement répété et stratégique, il n'y a pas de transformation possible. Pour renoncer à une mauvaise habitude et en acquérir une nouvelle, il est nécessaire de la répéter de très nombreuses fois avec si possible l'aide d'un entraîneur. Et c'est pour cette raison, conscient de cette difficulté, que nous avons si souvent encouragé chacun d'entre vous à trouver des amis fidèles sur lesquels il est possible de s'appuyer et de se confier. Mes amis, Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous comportions comme des gens religieux, c'est-à-dire des gens qui se contentent de leur savoir. Il nous a créés avec une destinée, avec une mission spécifique à accomplir dans cette génération et dans ce pays. Il a fait de nous ses fils afin que nous travaillions avec lui dans son entreprise pour réaliser son projet de vie. J'aimerais vous donner un exemple concret. L'autre matin, alors que nous prions dans le cadre de notre groupe de prière et que nous chantions, j'ai pensé à un homme du village très malade. Je me suis dit, je devrais aller le voir pour lui chanter ce chant. Et j'ai partagé cette pensée avec les frères et puis avec mon épouse. Et puis cette pensée m'a quitté. Le travail a repris ses droits. J'étais en train d'oublier une intention de Dieu parce qu'elle me semblait insignifiante. Et il a fallu que Dieu utilise ma femme pour me rappeler le lendemain qu'il considérait cette visite comme essentielle, me permettant également de prendre conscience qu'une fois de plus, cette idée était devenue pour moi qu'une intention religieuse. Je suis allé voir cet homme et j'ai pu lui chanter dans sa chambre d'hôpital ce cantique qui dit « Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame Jésus pour ton roi. » Et nous avons pu partager ensemble des choses importantes parce que Dieu avait préparé son cœur. La stratégie de transformation et de réforme que Dieu met en place est fondée sur le concept de la mise en pratique des choses qu'il considère comme essentielles. La réalité que nous avons alors à confronter, c'est qu'elles nous apparaissent presque toujours comme petites et secondaires. Et la réalité que nous avons à vaincre, c'est de ne plus jamais les délaisser. C'est pourquoi, mon ami, mon frère, deviens fidèle dans les petites choses. Et entre avec foi dans l'entraînement stratégique quotidien que Dieu réserve à ses fils parce qu'il les aime. Le Seigneur nous défie aujourd'hui sur la manière avec laquelle nous gérons nos possessions et nos ressources. Il continuera demain à le faire dans le domaine de la gestion de nos corps, de nos relations, de nos compétences, dans la gestion de notre temps. Un jour, il nous demandera des comptes sur la manière avec laquelle nous avons développé le potentiel qu'il nous a confié pour glorifier son nom en participant au développement de son royaume dans notre pays. Mes amis, c'est en devenant fidèles dans les petites choses uniquement que la vision qui nous habite de voir une armée d'hommes consacrés et organisés se lever dans ce pays deviendra une réalité et un outil entre les mains de Dieu pour faire la différence. Engageons-nous alors à quitter une fois pour toutes le banc de la religiosité confortable pour jouer sur le terrain de la fidélité responsable en choisissant d'obéir inconditionnellement à celui qui nous aime, à celui qui a donné sa vie pour nous, afin de nous rendre capables de devenir ses ambassadeurs, c'est-à-dire des agents de réforme, des solutionneurs de problèmes au sein de la société où il nous a placés. Comment ? En utilisant ses armes, l'amour inconditionnel, le respect de l'autre et le service. C'est la raison pour laquelle cette journée prendra le sens pour lequel nous l'avons préparé. Amen. Nous voulons encore prier. Seigneur, aujourd'hui, nous prions pour délier les liens qui nous lie à Mammon et à l'iniquité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous délions les uns les autres en accueillant le Seigneur, celui qui vient pour nous enseigner et pour nous transformer. Et nous lui demandons de renouveler notre intelligence et de libérer son esprit dans nos vies afin que son règne vienne et que son nom soit glorifié. Amen.
Salut les amis. Ciao, Tam. C'est un énorme plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Aussi, au nom de mon collègue Daniel Schoenberg, qui est le directeur du Männerforum, et de moi-même en tant que directeur du Forum des Hommes. Je parlerai aujourd'hui en français, même si je parle aussi le Schnappigat. C'est l'armée qui se met en place. Moi, je me réjouis. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Alpit. Moi, personnellement, si je suis venu écouter ce message au sujet du fric, c'est que j'aimerais que ce billet de 100 francs dorénavant se transforme en 1000 dans mon porte-monnaie. That's what I want to know. Earl, please, come on, show us how to become rich. Montre-nous comment on devient riche. Earl est un ami. Nous avons fait une journée avec les pasteurs jeudi, puis hier on avait les hommes d'affaires à bien, je peux vous dire, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est un mec qui a quelque chose à dire. Il vient du business, puis en plus il est dans la foi. You're in faith, yeah. Ok. Il a confirmé. Et il a quelque chose à nous dire. Accrochez-vous. Tout est sur cassette. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Aujourd'hui c'est un petit extrait qu'il nous donnera, mais vous pouvez acheter des cassettes en bas au prix de 40 francs. C'est 5 heures d'enseignement qui vous fait décoller. Earl, it's yours. Not too fast.
Correct.
Yeah. I take the money back.
Take the money. Okay. Good. You want to just turn this on the side? Just make it straight. Make it straight. Good morning.
Bonjour.
Good morning.
Bonjour.
Ah, yes.
C'est mieux.
It's a privilege for me to be here with you today.
C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler avec vous sur ce domaine des finances, nous allons parler de l'argent, et encore de l'argent. C'est un domaine que personne ne veut toucher, en particulier quand il s'agit d'un grand rassemblement comme celui-ci, peut-être en un lieu plus intime, mais pas dans un grand rassemblement comme celui-ci. Mais nous voulons ce matin parler avec vous de ce que la parole de Dieu a à dire dans ce domaine des finances. Les finances touchent chacune de nos vies. Il est impossible de vivre sur la planète Terre sans utiliser, sans avoir recours à l'argent. Or, la parole de Dieu a beaucoup à nous enseigner dans tous les domaines de la vie. La parole de Dieu a 218 versets qui nous enseignent sur la foi. Et nous savons tous combien la foi est importante. Sans la foi, est-il écrit, il est impossible de plaire à Dieu. Et il y a 218 versets dans les Écritures qui nous enseignent tout ce dont nous avons besoin de savoir, tout ce que nous avons besoin de savoir concernant la foi. Il y a 215 versets qui nous enseignent sur le salut et sur l'importance pour nous de comprendre le plan de Dieu du salut. Le salut est absolument essentiel. Sans le salut, nous ne pouvons connaître la réconciliation avec Dieu notre Père. 215 versets nous enseignent tout ce dont nous avons besoin concernant le salut. Maintenant, quand on en vient au domaine des finances, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de toutes les formes de finances, quand il s'agit des domaines de responsabilité par rapport aux finances, de la gestion de nos finances, là, nous trouvons 2084 versets qui nous enseignent dans ce domaine. Alors, la question donc qui se pose, pourquoi y a-t-il tant de textes de l'Écriture qui parlent de l'argent, des finances, de la gestion de nos biens, de cette responsabilité, redevabilité par rapport aux finances? Et la réponse est qu'il y a tant de choses que nous avons besoin de savoir. Et donc, la parole de Dieu ne nous a pas laissés sans avoir cet enseignement qui nous apprend à comment traiter les finances. Et nous allons donc utiliser les trois sessions d'aujourd'hui pour pouvoir commencer à dévoiler un peu les grands principes de Dieu pour les finances. Or, j'aimerais partager avec vous un élément contrastant. Il y a un contraste entre deux systèmes, le système du monde, qui est celui au sein duquel, à l'intérieur duquel nous vivons tous. La parole de Dieu dit d'ailleurs que nous sommes dans le monde, cependant il précise que nous ne sommes pas appelés à être du monde. Et il y a donc un système là-dehors qui traite du domaine des finances et bien d'autres aspects par ailleurs dans la vie. Et ce que Dieu cherche à nous dire, c'est qu'il nous a appelés en tant que croyants et en tant que chrétiens à vivre dans son royaume. Le royaume de Dieu a été établi dans nos vies parce que Jésus-Christ est venu prêcher et enseigner le royaume de Dieu. Et il a dit que le royaume de Dieu est proche et notre réponse, notre réaction doit être celle à laquelle Jésus nous a invités. Repentez-vous donc. Et quand nous nous repentons, nous changeons de mode de pensée, nous changeons de direction, d'orientation. Nous avons une réaction émotionnelle à l'appel de Dieu concernant ce fait que nous n'avons pas jusque-là suivi ses voies. Et donc, le royaume de Dieu est continuellement en train de se rapprocher de nous avec ses principes, avec sa manière de gérer la vie. Et Jésus nous dit continuellement, repentez-vous. Or, quand nous parlons du royaume de Dieu dans le domaine des finances, bien des fois, nous ne savons pas ce que cela veut dire vraiment, parce que nous avons été tellement façonnés, formés par le système du monde concernant les finances, que nous partons du présupposé que c'est tout ce qu'il y a concernant la gestion de l'argent. Et cependant, nous percevons qu'il y a quelque chose dans ce système qui est défaillant, mais on n'arrive pas toujours à mettre le doigt sur la nature du problème. Et donc, ce matin, j'aimerais parler avec vous du contraste entre le royaume de Dieu et le système du monde. Nous avons donc ici, de ce côté-ci, le royaume de Dieu, donc, et de l'autre côté, le système du monde. Le système du monde, le royaume de Dieu, un gouvernant, c'est le roi Jésus qui est le roi de ce royaume. Et il nous a appelés à vivre dans ce royaume pour que nous puissions jouir de tous les bienfaits qu'apporte ce royaume et que nous puissions en comprendre les principes de fonctionnement en étant obéissants à ses commandements. De l'autre côté, le système du monde est, lui, sous la puissance, la domination du diable. Le système du monde est sous le contrôle du mauvais. La première lettre de Jean parle de ce monde qui est entièrement dans le contrôle de ce prince du monde. Et Dieu nous appelle à entrer dans son royaume à lui. Or, dans le domaine des finances, nous voyons un contraste assez marqué. Le royaume de Dieu est, lui, fondé sur une base de dons et de donner, de recevoir. Et ce sont les principes qui gèrent le fonctionnement du royaume de Dieu. Donner, et il vous sera donné, pressé, débordant. Et nous trouvons de l'autre côté qu'il s'agit de vendre et d'acheter. Et c'est ainsi que fonctionne le système du monde. Et c'est le contraire exact du système qui est celui du royaume de Dieu. Or, le système du royaume de Dieu est conçu pour fonctionner sur la base de semailles et de moissons, tandis que le système du monde nous enseigne à prendre et garder. Prendre et garder. Il y a donc cet aspect de thésauriser, de s'accrocher à quelque chose qui soit pour nous un élément de sécurité. Et quand on parle d'augmentation dans le domaine ou d'accroissement dans le domaine des finances, dans le royaume de Dieu, cet accroissement se fait par ce qu'on appelle la multiplication. Tout ce que Dieu touche se multiplie. Par contre, le système du monde fait que la croissance vient en pourcentage. Et nous le savons parce que nous le vivons de manière continue. Nous mettons de l'argent à la banque et à la banque, l'argent va gagner des pourcentages d'intérêt. Et cependant, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui nous dit qu'il devrait y avoir de la multiplication, même dans ce système-là. Et alors, l'humanité, quand il s'agit de traiter ce système du monde, cherche à donner des occasions pour de la multiplication. Et nous appelons ça le jeu, les lotos. Nous avons différents moyens qui essayent de forcer ce système du monde à produire cette multiplication. Le problème avec cela, c'est que quelqu'un recevra la multiplication, mais ce sera fait aux dépens de tous les autres. Mais quand c'est Dieu qui multiplie, alors il multiplie à ses dépens, si on peut dire ainsi, et Dieu peut se le permettre. Et ce n'est pas fait aux dépens et au détriment de quelqu'un d'autre. Nous voyons donc ce contraste entre les deux systèmes. Or, il faut que nous nous attardions un peu sur trois domaines très précis, parce que à notre époque, il y a un mélange. Nous constatons que les gens cherchent à passer en avant, en arrière, entre les deux systèmes. Ah oui, je donnerai un peu à Dieu, mais ensuite je veux aussi garder. Et Dieu nous invite à notre époque à nous couper du système du monde et d'entrer pleinement dans son royaume qui va pourvoir à tous nos besoins parce que Dieu est notre source. Il nous faut donc aujourd'hui aborder trois domaines précis. Le premier, c'est un domaine que nous appelons les possessions, les biens. Ensuite, on parlera de richesse et ensuite on parlera de l'argent. Alors, parlons de ce domaine des possessions. Quand on parle de possessions dans la parole de Dieu, j'aimerais vous enseigner cela au travers des exemples. Dans la Genèse, au chapitre 13, Dieu décrit Abraham comme étant un homme qui est riche de possessions. Alors, on va essayer de voir ce que Dieu appelle les possessions, les biens, la fortune. Cela implique cinq choses, selon la parole de Dieu. Quand une personne a des possessions, a des biens, il ou elle a tout ou partie de ces cinq éléments. La première de ces choses, c'est des terrains. Dieu a créé la terre et il a créé toute la terre. Et la pensée de Dieu, c'est que les gens puissent être copropriétaires avec lui concernant la terre que Dieu a créée dans la planète. Et dans le cœur de chaque individu, il y a ce désir de posséder des terrains. Si vous considérez ce qui se passe actuellement, par exemple au Zimbabwe, en Afrique australe, vous verrez le problème de ces gens qui crient pour avoir de la terre. Quand les enfants d'Israël ont franchi le Jourdain, Dieu avait des terrains pour chaque tribu. Et chaque membre masculin de la tribu recevait en portion une partie de cette terre. Le deuxième aspect de ces biens ou de ces possessions, ce sont des maisons. Dieu a fourni des matériaux qui nous permettent de construire des maisons. Et les maisons étaient considérées comme étant une forme de possession. L'aspect suivant, c'est celui des bétails. Et quand une personne avait du bétail, il avait un moyen de multiplier ses possessions. Le bétail constitue une ressource multipliable qui est considérée comme une forme de possession que l'on voit pour Abraham. Et Abraham a pris une partie de la terre et Lot a aussi une autre partie et ils ont séparé leurs troupeaux et leur bétail. Le quatrième domaine de cette possession, c'est l'argent et l'or. Sous forme de lingots ou de bijoux. Et quand les gens possèdent de l'argent ou de l'or sous cette forme-là, on les considère comme étant des gens qui sont bien dotés en possession. Et puis, il y a un cinquième aspect qui est celui de ce qu'on pourrait appeler les ressources humaines. Les gens qui sont appelés à servir et ce faisant apporte une ressource créatrice à cette maisonnée. Et ce faisant, apporte de la richesse à ces personnes. En français, nous sommes un peu coincés parce que nous n'avons pas ces deux mots différents qu'a l'anglais entre « wealth » et « riches ». Donc, tout ce que Dieu fait, c'est concernant ses possessions, dont le but sont de constituer un héritage qui est maintenant transmis d'une génération à l'autre. Dieu est très intéressé par le transfert d'une génération à l'autre de nos possessions, de notre héritage. Et Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il se révèle comme étant le Dieu qui couvre trois générations au moins. Et son intention, c'est qu'il puisse y avoir une augmentation des possessions, des biens, de la fortune personnelle, si on peut dire, qui puisse être transmise d'une génération à l'autre. Et c'est pour cela que dans Deutéronome 8, 18, nous trouvons Dieu qui dit que c'est lui, Dieu lui-même, qui nous donne la force d'accueillir les biens. Et nous allons donc passer de ce côté de des possessions où Dieu est celui qui en fait possède ces sources de richesses, de ces héritages qui peuvent aller d'une génération à l'autre. Et nous allons maintenant passer à la question de l'argent. Alors, qu'est-ce que l'argent? L'argent se distingue des possessions. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a un certain flou entre ces domaines. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent aujourd'hui, on le considère comme étant riche. Encore une fois, on est coincé en français parce qu'on n'a pas les deux mots, mais comme quelqu'un qui possède beaucoup. Et en Matthieu, chapitre 22, nous voyons Jésus qui parle à ses disciples. Et là, la question est de savoir s'ils devaient, oui ou non, payer leurs impôts. Et alors, Jésus dit, montrez-moi une pièce. Et ils l'ont pris devant lui. Et Jésus dit, de qui est le visage sur cette pièce de monnaie? Et ils ont dit, c'est la tête de César. Et alors Jésus dit, donnez à César ce qui appartient à César. Soyez obéissants. Donnez votre allégeance à ce que César a déclaré lui appartient. cette pièce de monnaie appartient à César. Mais donnez à Dieu et soyez obéissants et obéissez au commandement de Dieu dans ce qui appartient à Dieu. Vous et moi, nous avons l'image de Dieu imprimée en nous. Et donc, nous avons un service à rendre à notre Créateur. Mais Jésus, en parlant de l'argent, dit qu'il y a un autre Créateur qui a fait cela, et qui s'appelait César, qui représente le système du monde. C'est le système du monde qui crée l'argent. Et il le fait dans un but bien précis, le but qui est d'acheter et de vendre. Or, quand nous comprenons que l'argent est fait tout d'abord en prenant quelque chose qui appartient à Dieu, comme de l'argent ou de l'or ou un autre métal ou même le papier, et en y imprimant un autre visage que celui de Dieu, et que ce visage-là est gravé sur ce matériau-là, il y a un transfert de royaume et il ne fait plus partie de la propriété de Dieu, mais désormais est entré dans le système du monde. Et à partir du moment où il est entré dans le système du monde, il relève de la puissance de quelque chose qu'on appelle Mammon. Or, Mammon, nous trouvons dans la parole de Dieu, a un travail très spécifique concernant cet ordre de mission qui est donné à l'ennemi dans le système du monde. Sa volonté en mettant l'argent dans la vie des gens, c'est de faire en sorte que les gens aiment et servent l'argent. Qu'ils aiment et servent l'argent. C'est cela la fonction, le but de Mammon. Alors, si vous voulez bien regarder avec moi Matthieu chapitre 6, si vous avez avec vous vos Bibles, nous voulons considérer cette section de la parole de Dieu pour voir les principes que Dieu nous dévoile concernant les finances. Et nous trouvons en Matthieu 6, verset 19, Jésus enseigne ses disciples et il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Et remarquez qu'il parle ici d'argent, parce que quand il parle des trésors sur la terre, il parle des questions d'argent, parce qu'au verset 24, remarquez qu'il dit, « Vous ne pouvez servir deux maîtres. On ne peut servir Dieu et Mammon. » Et donc, nous trouvons ce contraste entre Dieu et Mammon. Mammon est une entité qui vit dans le domaine spirituel, un être démoniaque. C'est ce que nous pourrions appeler un pouvoir ou une puissance. Je pense que vous êtes nombreux à connaître Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, où il est question de ce qui se passe autour de nous. Et dans Éphésiens 6, et au verset 12, il est dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas livré dans le domaine naturel, mais dit, nous luttons contre des principautés et des pouvoirs. Et ensuite, il poursuit en décrivant ces maîtres démoniaques qui règnent dans le domaine spirituel. Et un de ces pouvoirs qui nous entoure, qui influence les pensées, les cœurs des hommes, c'est quelque chose qu'on appelle Mammon. Et Jésus, en Matthieu chapitre 6, prend ce mot Mammon, qui est un ancien terme araméen, et il le fait entrer dans son enseignement à ses disciples, et il dit en somme qu'il y a une entité qui va être le rival de Dieu, cherchant à gagner votre amour et votre service. Et donc, nous trouvons dans la parole de Dieu que Jésus réitère cela en disant que nous devons aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. C'est cela, l'entité entière de votre personne qui s'engage à aimer et servir Dieu. Et il y a aussi cette entité, Mammon, qui se porte comme rival de Dieu, cherchant à gagner notre amour et notre service. C'est la seule entité mentionnée dans la parole de Dieu qui soit effectivement placée comme étant rival de Dieu pour notre amour. Beaucoup de traductions de la Bible en Matthieu 6, 24 disent « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Or, l'argent est une bonne traduction du mot « mammon », mais il faut comprendre que derrière le système de l'argent, il y a une entité spirituelle qui s'appelle « mammon » et qui influence la vie des personnes et influence la pensée des personnes continuellement. Aujourd'hui, dans notre monde, nous constatons qu'il y a des activités qui se font à cause de l'amour de l'argent. Dans 1 Timothée 6 et le verset 10, il est dit « N'aimez pas l'argent parce que l'amour de l'argent est la racine d'un grand nombre de maux. » Et nous voyons dans le monde autour de nous combien ce verset se réalise. Les gens qui font de la vente de drogue, ceux qui sont impliqués dans l'extorsion le font par amour pour l'argent. Ils se fichent pas mal des possessions ou de ces formes-là de richesse. Ce qu'ils recherchent, c'est l'argent. Et ils feront n'importe quoi pour obtenir cet argent. Alors cet esprit de mammon influence les pensées et les cœurs des gens, et même des chrétiens. Parce que, voyez-vous, nous pouvons aimer l'argent et parfois sans même reconnaître que nous aimons l'amour. Parce que l'amour et l'argent prend une autre forme. Il passe dans ce troisième domaine qui est la richesse, qui est quelque part entre l'argent et les possessions. Et il nous faut donc comprendre ce que sont les richesses. Les richesses sont simplement de l'argent qui travaille pour nous. Quand nous avons des finances suffisantes, par-delà nos nécessités, nos obligations, alors, dans le système du monde, nous parlons d'investissement. On souhaite investir ce surplus. Et quand nous investissons de l'argent dans le système du monde, alors là, il forme quelque chose que nous appelons la richesse. Alors, les gens qui ont de l'argent sur leur compte en banque, qui ont de l'argent placé en obligations, en bons du trésor, en bourse, constituent une forme de richesse. Et l'esprit de mammon, qui influence l'argent, influence également les richesses. Et que veut-il de nous? Il veut que nous placions notre confiance dans les richesses. Il veut que nous placions notre confiance dans les richesses. Et donc, nous trouvons ici, en Matthieu 6, nous avons commencé donc notre lecture en 6:19, il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » À chaque fois que nous plaçons de l'argent dans une forme de richesse, il y aura la tentation d'y accorder notre confiance. Et nous avons des gens dans le monde entier qui cherchent à avoir de l'argent pour le placer dans des investissements qui leur permettent d'obtenir une certaine sécurité dans et au travers de ces investissements pour différents buts. Peut-être c'est pour la retraite, peut-être c'est pour la pension, quoi qu'il en soit. Mais ils commencent à se confier en ces richesses. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque nous commençons à placer notre confiance en ces choses-là, cela devient un trésor. Et tout ce qui est trésor, la parole de Dieu dit que notre cœur le poursuivra. Et nous trouvons cela au verset 21. Tout ce que vous considérez comme étant un trésor sera aussi la recherche de votre cœur. Et je pense que le cœur ici parle de l'aspect des émotions, parce que quand on parle du mot richesse, c'est quelque chose de très émotionnel. Bien souvent, les gens ne veulent pas parler de l'argent, ils ne veulent pas parler de cet aspect des richesses. Nous sommes ici, mon pasteur est ici avec moi, et nous sommes ici en Suisse, qui est connu dans le monde entier pour son argent, pour les finances, pour tout ce qui est ce bastion de mammon. C'est un pays que nous pouvons appeler un bastion de mammon. Mammon qui souhaite contrôler les pensées, le cœur des gens. Et les gens ne veulent pas parler de l'argent. Mais il y a ce côté secret de confiance placé en l'argent qui en fait notre trésor. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre ou dans ce système. Pourquoi? Parce que, dit-il, il y a de la teigne, la rouille, les vers et des voleurs qui percent et dérobent. Que sont ces choses? Eh bien, ces choses, on pourrait les traduire aujourd'hui par inflation, déflation et dévaluation. Et le monde connaît ces trois éléments comme ayant une influence sur l'argent. Le problème de l'inflation dans le monde, peut-être pas tant ici en Suisse, mais le problème est bien souvent celui de l'inflation. Ensuite, la déflation, lorsqu'il y a une contraction de l'offre d'argent et donc il n'y a pas assez d'argent pour mener les affaires. Et ensuite, il y a l'aspect de la dévaluation. Et si l'on voit entre le problème du ratio entre le dollar et l'euro, les hommes ont conçu l'euro pour qu'il soit fort contre le dollar. Et aujourd'hui, il est à 85 cents pour le dollar. Et tout le monde s'inquiète et dit, est-ce qu'on a fait la bonne chose? Et il y a de la crainte et de l'inquiétude qui s'empare du cœur des gens à cause de ce qu'on appelle la dévaluation. C'est induit par Mammon, visant à ce que les gens y mettent leur confiance. Et le fait est que Mammon ne peut pas donner ce qu'il promet, alors les gens tombent dans l'inquiétude concernant l'argent. C'est pour cela qu'au verset 25 de Matthieu 6, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter et de ce dans quoi vous allez vivre, parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin et il est donc disposé à pourvoir à nos besoins. Et il nous dit, moi je m'occupe des oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne travaillent même pas pour ça. Mais mon Père s'en occupe. Et vous, ne valez-vous pas bien plus, n'avez-vous pas plus de valeur que les oiseaux du ciel? Et pourtant, on peut se laisser prendre par ce système où nous sommes troublés par cet esprit de Mammon et nous connaissons l'inquiétude et les préoccupations concernant nos finances. Or, quand nous passons plus loin, si vous voulez bien, revenons au verset 20, donc toujours de Matthieu 6, il est dit, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Et c'est ici que Jésus introduit les concepts concernant l'argent et les finances selon le royaume de Dieu. Et il dit, « Oui, vous allez avoir besoin d'argent. Oui, il va falloir pouvoir payer ses factures. Oui, l'argent sera nécessaire pour acheter et vendre dans ce système, mais il ne faut pas que cela devienne pour nous un trésor dans notre vie. » Et donc, il dit, « Votre cœur va toujours suivre le trésor. Donc, faites en sorte que votre trésor soit au bon endroit. » Et il dit donc dans ce verset 20, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » C'est bon comme programme, n'est-ce pas? Je pensais que les trésors dans le ciel avaient quelque chose à voir avec le fait d'amener les gens à Jésus, à amener des conversions, que c'était là notre trésor dans le ciel. Mais quand, en fait, je me penche sur les Écritures de près, je vois que les trésors dans le ciel se réfèrent bien à l'argent et nous devons comprendre comment nous pouvons amasser des trésors dans le ciel. Alors, si vous voulez bien, nous allons voir comment le faire, voir comment avoir des trésors dans le ciel. Parce que la parole de Dieu, en enseignant sur les finances, nous dit ce que nous devons faire. C'est un commandement. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Comprenez bien, je pense que quand on a un compte en banque, ici, en Suisse ou n'importe où, et que vous avez de l'argent dans ce compte, si vous avez, par exemple, 500 000 francs suisses en compte, vous ne seriez probablement pas inquiet ou préoccupé, en tout cas pendant quelques semaines au moins, dans ce domaine des finances. Et donc, Dieu sait cela et dit donc, amassez-vous des trésors dans le ciel pour que vous n'ayez pas besoin de vous inquiéter, de vous soucier de la source de vos finances. Et nous trouvons donc dans Marc chapitre 10 que là, Jésus parle d'un jeune homme que l'on dit riche. Et ce jeune homme riche est venu trouver Jésus au verset 17. Et il est dit que cet homme s'est approché de Jésus et lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Or, Jésus lui a répondu d'une manière très inhabituel et même d'une manière susceptible d'entraîner la confusion chez cet homme. Et il dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et il ajoute et il explique six commandements que j'aimerais maintenant aborder avec vous. Il dit au verset 19, donc de Marc 10, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme répond, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Or, il nous faut comprendre que lorsque cet homme lui a dit « bon maître », c'était une expression juive, et cette expression juive dénote ceci. Quand je dis de quelqu'un qu'il est bon, alors je me soumets à cette personne et je vais lui être obéissant en tout ce qu'il ou elle me dira. C'est ce que veut dire cette expression « bon maître » adressée à quelqu'un. Jésus vérifie donc s'il a vraiment compris ce qu'il a dit. Et il le comprend parce qu'il cite 6 commandements sur les 10 et quelle a été la réponse de cet homme. Et il dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus le regarde et lui a dit, « Oui, tu comprends donc bien ce que tu entends quand tu dis « bon maître ». Et puis au verset 21, il est dit que Jésus le regarde et l'aime. Et cependant, il reconnaît qu'il y a un problème dans la vie de cet homme. Que s'il voulait vraiment venir suivre Jésus, il y avait un autre Dieu qui était en concurrence avec le Dieu des cieux dans sa vie. Et ce Dieu qui était à l'œuvre dans sa vie était le Dieu de Mammon. Et il est intéressant de constater que Jésus veut qu'il soit libre. Et il dit au verset 21, « Il te manque une chose, va, convertis tout ce que tu as, toutes ces richesses, convertis-les en argent et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Jésus donc veut que cet homme soit libre et il lui dit comment briser le pouvoir de Mammon. Et il brise le pouvoir de Mammon en donnant, en distribuant tout ce qu'il possède. Et là, il entre dans ces principes du royaume qui sont ceux du don. Et ce faisant, il brise la puissance de Mammon sur ses pensées. Parce que cet homme veut être un disciple de Jésus, mais pour le faire, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu au service duquel il se place. Et c'est Jésus, Dieu le Père. Et nous trouvons donc que le pouvoir de Mammon a besoin d'être rompu. Mais le pouvoir, l'emprise de Mammon est si fort dans la vie de cet homme que nous lisons au verset 22 que cet homme fut affligé et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens, de grandes richesses. Les grandes richesses s'étaient emparées de lui. Or, en regardant ce verset, je suis sûr que beaucoup ici aujourd'hui disent, vous voulez dire que moi je dois convertir toutes mes richesses en argent et que je le donne? Eh bien, regardons les disciples. Vous voyez cet événement, ont vu cet homme s'en aller triste et affligé. Il est dit au verset 24 que les disciples étaient étonnés. Ils étaient surpris. Il est même dit qu'ils étaient perplexes. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Comment pouvaient-ils comprendre ce qui se passait? Eh bien, très simplement, permettez-moi de vous poser une question. Si vous étiez là, observateur de cette conversation entre Jésus et le jeune homme riche, et que vous l'entendiez dire, « Va convertir tout cela en argent et donne-le aux pauvres », comment auriez-vous réagi? Si vous n'aviez pas d'argent en poche, qu'auriez-vous ressenti? Et si vous aviez eu de l'argent en poche, qu'auriez-vous ressenti? Bon, voyez-vous, sans argent de votre poche, vous auriez dit, « Ah, Jésus, ça y est, vas-y, enfonce le clou. C'est comme ça qu'on entre dans le royaume. » Mais si vous aviez de l'argent en poche, vous auriez dit, « Oh là là, oh là là là. Ah, ça, on n'avait pas fait. Ah, quelque part, on a raté le coche. » Et les disciples étaient étonnés dans la perplexité. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a appelé Pierre ou Matthieu, il est dit qu'ils ont aussitôt laissé tomber leur affaire et ils se sont mis à suivre Jésus parce que l'esprit de Mammon ne contrôlait pas leur vie et leurs pensées. L'argent était leur esclave. L'argent était donc à leur disposition pour qu'ils fassent ce qu'eux voulaient faire et non pas l'argent comme leur maître. Et donc, nous voyons ici cette perplexité qui était la leur parce qu'eux avaient de l'argent en poche. Les gens me disent, mais oui, mais est-ce que tout le monde doit faire ça? Est-ce que c'est nécessaire, vraiment? J'ai eu des gens dans les séminaires qui sont venus me trouver de côté et me disent, mais écoute, frère, j'ai besoin de parler avec toi. Est-ce que tout le monde doit faire ça? Et je leur dis très simplement, je dis, ben, écoute, si tu as besoin de me poser la question, vraisemblablement, oui, tu en as besoin. Parce que, voyez-vous, l'objet ici, qui est visé ici, c'est de briser le pouvoir de Mammon pour nous faire entrer dans le domaine du don où l'argent devient notre esclave, alors que l'argent cherche à être notre maître, cherche à contrôler notre vie. Jésus savait que c'était le cas dans la vie du jeune homme riche et il lui a donné l'occasion de pouvoir briser l'emprise de cette puissance en le donnant aux pauvres. Or, si Mammon a le contrôle de vos pensées, vous êtes sourds et aveugles aux questions de Dieu. Parce qu'en Proverbe 19, 17, il est dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel et l'Éternel le lui rendra. Et donc moi je dirais à ce jeune homme riche, quel est ton problème? Convertis tout cela en argent et donne-le. Et quand on fait cela, en donnant aux pauvres, on prête à Dieu et Dieu remboursera. Or, si nous sommes sous le pouvoir de Mammon, si Mammon a l'autorité dans notre vie, et si c'est lui qui contrôle nos pensées, nos cœurs, alors nous serons incapables de le faire. Nous devenons aveugles à la parole de Dieu et aux vérités du royaume de Dieu. Jésus voulait que cet homme soit libre. Et il dit, c'est ce qu'il te faut faire. Et Jésus l'a aimé. Et vous savez, quand vous et moi nous donnons, à chaque fois que nous donnons, par obéissance à ce que Jésus nous dit de faire, nous amassons pour nous-mêmes des trésors dans le ciel. Or, en d'autres termes, ce que nous faisons, c'est en fait de placer un dépôt, nous faisons un dépôt de fonds, si vous voulez, dans notre compte céleste, compte qui est qu'on peut appeler trésor dans le ciel. Et là, nous faisons un dépôt, nous mettons quelque chose qui est au crédit de notre compte en donnant. À chaque fois que nous agissons par obéissance en donnant, nous faisons un dépôt sur notre compte céleste. Et ce compte-là n'est pas affecté par l'inflation, ni par la déflation, ni même par la dévaluation. Alléluia. Et je vais conclure cette première session maintenant en vous laissant cette pensée. Nous allons reprendre dans la deuxième session et nous allons poursuivre notre volonté de comprendre comment fonctionnent ces trésors dans le ciel et le flux des finances dans le royaume de Dieu.